Créodyssée. Voyager et se perdre dans la création. Un podcast présenté par Géraldine Jojou et réalisé par Éric Blanc.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Créodyssée, le podcast consacré aux artistes et aux innovateurs, à leur environnement ou à leur boîte à outils. Pour cet épisode, nous allons tenter de comprendre le lien entre création artistique, art brut, environnement, recyclage et poésie. En effet, nous aimerions nous interroger ici sur le lien entre la matière et l'artiste dans une société où de nombreux facteurs influent sur ce choix. Or, le choix du matériau pour le plasticien est loin d'être secondaire. Ce que l'artiste peut demander à la matière, ce que la matière façonne de l'artiste, comment l'artiste sélectionne la matière, comment la matière amène l'artiste à suivre une direction précise, tout ceci nous indique qu'on est au cœur de la matrice. Une symbiose s'établit, et de cette rencontre ne naîtra peut-être pas une histoire d'amour, mais sûrement un espace d'échange et de créativité dans lequel les dialogues, entre les deux, l'artiste et les matières premières, primeront sur les intentions de départ. Mais commençons par le commencement. Derrière le mot « création », on entend bien l'idée de faire naître du néant une forme, une image, un élément qui n'existait pas l'instant précédent. Mais aujourd'hui, à une ère industrielle avancée où nos sociétés, occidentales plus particulièrement, n'ont de cesse de produire, d'amonceler, d'échanger, au sens libéral du mot, se pose pour l'artiste cette question de la matière première, laquelle utiliser. À une époque où ces produits, glaise, peinture, papier, plastique, bois, métaux, sont devenus un véritable marché, avec la démocratisation des activités artistiques, comment se positionner face à cette profusion qui peut tendre au gaspillage, à l'abus ou qui pose la question de la pérennité des œuvres d'art elles-mêmes. Faut-il des œuvres durablement et environnementalement engagées? Pour obtenir des réponses, peut-être faut-il aller faire un tour du côté de l'art brut. Au départ, un art qui, selon les mots de Jean Dubuffet, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est associé à des créateurs jugés sans culture artistique ou encore à des marginaux, prisonniers, mystiques, anarchistes, reclus, où le caractère spontané, inventif, l'emporte sur la conceptualisation et le désir de s'inscrire pour l'artiste dans un art officiel. En 1963, dans une notice sur la compagnie de l'art brut, la définition s'étoffe. Je cite « Des productions de toute espèce, dessins, peintures, broderies, figures modelées ou sculptées, présentant un caractère spontané et fortement inventif, aussi peu que possible débitrice de l'art coutumier et des poncifs culturels, et ayant pour auteur des personnes obscures ou étrangères au milieu artistique professionnel. » Cet art brut va trouver dans l'art populaire, l'art outsider ou encore les arts singuliers des domaines voisins avec lesquels il aura de nombreuses acquaintances, discussions et surtout avec lesquels on peut lui trouver des points communs. Créateurs qui sont exclus de fait ou volontairement des fonctionnements institutionnels artistiques, formes d'art non conceptualisées et surtout une attention toute particulière portée aux matériaux. Nous n'aurions pas le temps, dans une petite introduction comme celle-ci, d'expliquer cette théorie artistique que nous avons choisi de tout juste affleurer, mais j'espère que vous allez comprendre où je veux en venir. Ce qui nous intéresse là est de comprendre le lien entre la démarche d'un artiste qui ne se place pas réellement dans la perspective d'une carrière officielle et dont l'activité de création repose sur un rapport particulier à la matière. Au travers de ce choix, que nous dit-il du monde qu'il perçoit et de sa poésie, de l'activité artistique qu'il a développée et de son rapport à l'environnement et à la crise que nous subissons, c'est grâce à Antoine Veil, bonjour.
Bonjour.
Artiste plasticien ardennais qui crée à partir de matériaux recyclés que nous allons explorer ce nouveau domaine. Alors on va commencer l'épisode comme tous les épisodes par d'abord essayer de vous découvrir un petit peu mieux, Antoine Veil. Est-ce que, la question traditionnelle par laquelle on commence toujours, c'est est-ce que vous venez d'une famille d'artistes?
La réponse, c'est que mon père était un artiste. Pas connu, un artiste, on va dire un bricoleur de génie. Voilà, qui savait à peu près faire tout ce qu'il voulait avec ses mains, réparer et surtout construire. Il a réparé notamment sa maison, une très vieille maison alsacienne qu'il a restaurée. Et il savait aussi bien peindre que dessiner, que sculpter, ils savaient tout faire.
D'accord, donc à la fois artisanat ou art, un peu entre les deux?
La jonction entre les deux.
Et est-ce qu'on discutait de l'art chez vous? Est-ce qu'on discutait des œuvres d'art?
Jamais.
Jamais. Donc à la fois un positionnement beaucoup dans le manuel, dans l'expérience en tout cas, la pratique, Mais pas de discours sur l'art.
Jamais de discours sur l'art, uniquement l'exemple, en fait.
D'accord. Est-ce que les contacts, justement, avec le domaine artistique, ils se font où, alors, pour la première fois dans votre histoire ? La première fois que vous voyez des œuvres d'art, que vous...
En fait, moi, au départ, c'était les bandes dessinées qui m'intéressaient. C'est ce qui intéresse les... Aujourd'hui, c'est les mangas, plutôt, déjà. Mais moi, c'était les bandes dessinées, c'était Gaston Lagaffe. La première chose que j'ai voulu être, c'est dessinateur de bandes dessinées. Donc, dès lors, je faisais beaucoup de bandes dessinées. Il fallait bien se rendre compte que j'étais pas très doué, j'étais pas très très bon. Après, j'ai passé un bac scientifique, mais j'ai tout de suite compris que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je suis allé en faculté d'art plastique à Strasbourg, et c'est là que j'ai rencontré véritablement l'art.
Et c'est passé par la pratique ou par la rencontre avec des professeurs, ou peut-être les deux ?
C'est d'abord la rencontre avec les professeurs. D'accord. Il m'a fallu du temps pour que de moi-même, j'aille dans un musée.
D'accord. Et là, c'est ce qu'ils vous ont dit, c'est le discours sur l'art, c'est les théories sur l'art qui vous ont attrapé, ou alors...
C'est plutôt l'émulation avec les camarades étudiants.
Et il y avait un domaine artistique qui vous plaisait plus particulièrement à cette époque-là, ou pas ?
Oh, j'étais nul partout.
Oui, mais il y avait peut-être des choses qui vous attiraient plus que d'autres ?
Le dessin, puis progressivement la peinture.
La peinture, d'accord. Et vous êtes essayé à cette époque-là, j'imagine, vous avez fait plein d'essais.
Oui, j'ai fait énormément d'essais, qui ont continué ensuite après les études. Je n'ai jamais cessé d'essayer.
D'accord. Et il y avait un domaine artistique, enfin plutôt un courant artistique qui vous attirait ? À cette époque-là ?
Lorsque j'ai fini mes études à la fin des années 80, le courant qui m'intéressait, c'était un blanc.
Oui, vous inquiétez pas.
La figuration libre, bien entendu, qui s'est échappée, que je dis ça pourtant 10 fois par jour.
Donc le courant artistique, c'est la figuration libre.
C'est ça, la figuration libre.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Parce que là, moi, j'avoue que...
C'est un mouvement artistique dans lequel les artistes revendiquaient le retour à une peinture amusante, une peinture qui serait basée sur l'imaginaire, une peinture qui serait plus narrative, plus descriptive, qu'une peinture qui ne serait plus conceptuelle.
Assez proche, finalement, de la BD, peut-être ?
Très proche de la bande dessinée.
C'est peut-être le lien avec ce que vos
premiers
amours.
Je pense que oui, c'est ça, c'est probablement ça. Et c'est aussi le fait qu'il y avait à l'époque à Strasbourg un noyau d'artistes de figuration libre que j'ai pu rencontrer et qui m'ont fortement, au départ, influencé.
D'accord. Et dans votre famille, on a perçu comment le fait que vous choisissiez cette carrière-là ? Est-ce qu'il y a eu parce que votre père donc, avait une activité manuelle, artistique, finalement, sans la dire ? Donc, comment ils ont perçu le fait que vous alliez vers cette branche-là ?
Avec inquiétude, je pense.
Avec inquiétude, oui. Ils étaient... Quand vous commencez à créer, donc c'était sur quelle thématique et sur quel support ? Donc, vous avez parlé de dessin, de peinture. Est-ce que c'est ça qui va se...
Lorsque j'ai décidé d'engager un processus créatif, j'avais dans l'idée d'être peintre. Et j'avais l'intention de réaliser une série de peintures basées sur des sujets simples comme la représentation d'une tête, en me posant la question, mais qu'est-ce que c'est une tête humaine ? Sur quoi je vais m'appuyer pour représenter une tête ? Est-ce que je vais aller chercher du côté de l'art africain ? Est-ce que je vais aller chercher du côté de la Renaissance ou du côté de l'art moderne ? Donc j'essayais.
D'accord. Vous avez essayé un peu toutes ces possibilités ?
Jamais avec succès.
Jamais avec succès, d'accord. Qu'est-ce qui fait que vous parlez finalement, pas d'échec, mais en tout cas que vous n'êtes pas satisfait de cette période-là, à votre avis ?
En fait, quand vous êtes jeune, vous sentez en vous un manque, quelque chose qu'il faut combler, quelque chose que seule la création artistique vous donne l'impression de pouvoir combler. Et alors vous rencontrez, vous faites des rencontres, des gens qui se sont lancés dans un processus créatif. Et ces gens vont avoir une empreinte sur vous. Et vous partez, vous, guilleret à l'aventure, le cœur vaillant, en vous basant sur ce que les autres ont créé. Donc vous partez rigoureusement dans la mauvaise direction.
D'accord. Voilà. Il faut trouver sa propre direction.
Exactement.
C'est ça l'idée. Et c'est le chemin de toute une vie ?
Ça m'a pris très, très, très longtemps.
Alors, à partir de quand vous pensez que vous êtes vraiment entré dans le vrai ? Enfin, dans le vrai pour vous, quand je dis pas le vrai, la vérité absolue.
À la quarantaine.
À la quarantaine ?
Oui.
Et là, vous êtes sorti du dessin, j'imagine, non ? Ou alors vous restez toujours pareil ?
Non, j'ai continué à peindre sans connaître plus de succès. Je dessine en parallèle, mais c'est pas une activité qui me fascine, le dessin. En fait, tout s'est débloqué par un geste imprévu, inattendu.
Ah.
Oui, j'étais encore en train de réaliser une tête très compliquée, un peu grotesque, probablement un flop total à l'arrivée, pour lequel je m'investissais depuis certainement plusieurs semaines, parce que ces réalisations pouvaient me prendre des mois. Et à ce moment-là, j'essayais d'introduire des objets dans les têtes. Et j'avais toute une pile d'objets, et j'avais un cache-pot en zinc, de forme rectangulaire, et un morceau de gouttière qui me gênait, je l'ai posé sur le cache-pot en zinc. Je suis reculé pour voir mon tableau qui ne me plaisait pas, qui ne me plairait pas, et j'ai tourné la tête et j'ai vu la gouttière poser sur le cache-pot en zinc. Et je me suis dit, mince, ça fait un éléphant.
Et là, vous êtes dit, c'est ça en fait.
Non, je me suis pas dit ça.
Pas,
je
pas
me suis dit, ça fait un éléphant, c'est bizarre. Je regarde mon machin très compliqué, je regarde ce machin tout bête, et je me dis, mais qu'est-ce qui est bien alors en fait? Qu'est-ce qui est beau? Quand est-ce que c'est beau? Là, il suffisait que je creuse un trou à la perceuse, que je mette une vis, et c'était fini. C'était dérisoire, c'était pitoyable. Mais finalement, ça me plaisait plus
qu'est-ce que, vous faites,
que le truc sur lequel j'avais bossé pendant des semaines, voire des mois. Que j'ai détruit, qui n'existe plus. J'ai gardé le petit éléphant, je ne le montrerai jamais, parce qu'il est rikiki, il est tout petit.
Oui, mais sauf
mais
que c'est lui qui a donné...
C'est le point de départ de ma réflexion, d'une réflexion que je dirais enfin personnelle.
D'accord. Et à partir de là, vous avez commencé à créer donc ces œuvres avec des matériaux que vous avez
récupérés. J'ai commencé par m'asseoir.
Ah, vous avez commencé par vous asseoir.
Ah oui, je me suis assis.
Donc le temps de la réflexion d'abord.
Long. C'est-à-dire le temps qui consiste à s'asseoir, à réfléchir et à prendre un truc et à le poser sur un autre truc.
D'accord.
Pour voir si le phénomène un jour se reproduit.
D'accord.
Avoir à faire rouler ceci, à jeter par terre une pile d'objets, voir s'il y a des formes qui émergent en fait.
D'accord.
Et désormais, mon activité, surtout, consistait à chercher des objets, à les faire entrer dans l'atelier, à m'asseoir sur le fauteuil et à en prendre un, à le poser sur un autre.
D'accord.
Et à regarder.
Mais d'abord, le temps de réflexion avant de partir en quête de matériaux.
Est-ce que c'était une direction viable? Parce que quand on pense à ce petit éléphant, on pense tout de suite à Picasso, Guidon, sel égale taureau.
Ouais.
Alors est-ce que le chemin était déjà pas barré d'office par ça?
Oui.
Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans cette expérience?
Oui. Et qu'est-ce qui vous a convaincu que finalement ça valait le coup?
Le fait que finalement mon éléphant à moi était beaucoup plus pitoyable que le taureau de Picasso, et que tant qu'à jouer du côté dérision et pitoyable, après tout, le dérisoire, c'est pas mal non plus.
L'autodérision, ça peut être un vecteur finalement, un stimulant?
Oh, je parle pas d'autodérision, je parle de dérision par rapport au monde de l'art.
Par rapport au monde de l'art. Donc c'est une forme d'humour, une moquerie un peu.
Oui, ou de désespoir.
Mais mélange tout ça.
Quand tout est perdu, quoi.
Alors justement, maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus au processus créatif que vous avez mis en place, et on va essayer de réfléchir à chaque étape avec des attentions plus particulières aux matériaux. Alors, donc, dans ce travail préparatoire que vous faites, il y a d'abord le choix des matériaux. Alors expliquez-nous comment vous les trouvez, comment vous les sélectionnez, comment vous les accumulez.
Eh bien, d'abord, pour trouver des objets, on va où se trouvent les objets. Donc, on va dans les déchetteries, on va dans les vides-greniers. Donc, tous les dimanches, vides-greniers, toutes les semaines, déchetteries. Et puis après, on ouvre les yeux, tout simplement, parce que le propre de ces matériaux, les objets, c'est qu'ils sont partout.
D'accord.
Et qu'ils peuvent se trouver par terre.
Et qu'est-ce qui vous attire? Parce qu'ils sont partout, en effet, mais ils sont surtout très nombreux et très différents. Alors, comment sélectionner? Comment choisir un en particulier et pas tous?
En fait, c'est leur forme, tout simplement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la représentation de l'animal. Et si vous regardez les objets, on n'imagine pas le nombre d'objets qui ont une dégaine d'animal, en fin de compte. Une silhouette d'oiseau en vol, un port de tête de canard, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une poignée de machines à café, ça peut être un engrenage d'un élément mécanique. Il suffit de regarder. En fait, j'ai pas vraiment de règles.
D'accord. Mais vous avez appris à regarder d'une façon particulière le monde, alors. Parce que tout le monde ne voit pas ça dans les objets, on peut voir l'objet...
Mettons que j'ai appris à mettre en relation les éléments qui m'entourent. Mmh. Voilà, avoir un regard qui repère tout de suite quand un élément passe devant l'autre, si c'est potentiellement susceptible d'amener quelque chose ou si c'est perdu d'avance.
Ouais. D'accord. Et vous les choisissez en fonction d'un animal que vous avez en tête ?
Non.
Pas du tout ?
Non, j'ai jamais rien en tête.
D'accord. Donc là, c'est vraiment ce que vous évoque à ce moment-là l'objet dans votre tête comme
c'est
forme.
Ça, c'est ça. L'autre fois, j'ai trouvé une sorte de peau avec des taches noires sur fond jaune. Mmh. Je me suis dit, c'est invraisemblable, ça va faire un léopard. Mmh. Il m'a fallu plusieurs mois pour faire le léopard, pour trouver les autres éléments, mais effectivement, il y avait un léopard dedans.
Donc, ce qui peut rentrer en compte, c'est la couleur de l'objet.
Oui,
la forme. Ça peut être aussi la matière, j'imagine.
Oui, il y a des matières que j'évite.
Ah, alors comme lesquelles ?
La céramique, tout simplement. Dès que vous percez un trou, il n'y a plus rien.
D'accord, donc là, trop fragile.
Oui.
Mais par contre, j'imagine qu'il y a des matières que vous préférez, sur lesquelles vous préférez travailler, peut-être.
Oui, le métal, c'est toujours plus simple. En fait, le métal attire plus le spectateur aussi.
Parce qu'il brille.
Oui, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'aime beaucoup le plastique. Hein. Travailler le plastique, c'est marrant comme tout. Mais ça rebute un peu plus le spectateur, le plastique.
Ça a une image un peu pauvre aussi, le plastique, ou en tout cas, ça fait penser à des déchets, peut-être.
Oui, c'est ça, une image dévalorisée, une image de rebut.
Oui, de
métal a un côté noble, c'est ce qui est débile.
Oui, oui. Bon, le bois aussi a un côté noble.
Oui, le bois aussi a un côté noble.
Je pense, en fonction, après des bois, des vernis qui peut y avoir dessus, mais c'est vrai qu'il y a des matériaux qui ont déjà une forme de hiérarchie entre eux. Est-ce que vous faites attention à équilibrer, justement, dans votre recherche ?
Non, je prends l'objet qui m'intéresse, quel qu'il soit.
D'accord. Et en quelle quantité vous en prenez ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez évalué combien vous en récoltez par semaine, par mois ?
Mais désormais, j'en fais rentrer beaucoup moins dans l'atelier. Vous avez pu voir que l'atelier est rempli à ras-bord. Mm-hmm. Donc, je sais très bien ce que j'ai. C'est pas la peine de le faire rentrer une nouvelle fois.
D'accord.
En fait, il y a des fournées d'objets sur les brocantes. On va trouver telle année, tel objet. Donc, une fois qu'on l'a trois fois, c'est la peine d'y revenir. Voilà. Sauf si on se rend compte qu'il en faut un quatrième.
D'accord.
Parce que les animaux sont en quatre pattes. Hein,
voilà. Et justement, vous y mettez beaucoup d'argent, parce que vous parlez de vide-grenier, mais bon, voilà, il y a des pièces qui peuvent peut-être coûter un peu plus cher que d'autres.
Oui, j'évite tout ce qui coûte cher, parce que je pense quand je fais entrer un objet, il n'y en a pas un sur dix qui va donner quelque chose, en fait.
D'accord. Donc, il y en a qui vont rester dans votre réserve et qui ne vont jamais être utilisés, c'est possible ?
Oui, il y en a qui sont depuis 20 ans.
Est-ce que vous imposez aussi, par rapport à ces objets, une taille ? C'est-à-dire, vous vous dites, plutôt des petits objets ou plutôt des très grands objets, enfin, je ne sais pas.
Non, j'aimerais beaucoup faire du très grand. Simplement, je n'ai pas les moyens, du point de vue de l'espace, de le
stocker.
Faire.
Voilà, c'est plus...
Stocker,
voilà.
C'est ça.
Et par rapport au fait de travailler ces objets, tout ce qui est découpage, collage, que j'imagine que vous faites, est-ce que là aussi vous réfléchissez par avance en vous disant, tiens, ce matériau-là, ça va être infernal à travailler, je le laisse de côté, je le prends pas?
Mais oui, c'est ce que je vous ai dit, la céramique, par exemple, c'est pas la peine, ça peut avoir la forme la plus jolie qu'on veut. Le seul moyen de l'assembler, c'est de la coller.
Mmh. Ça peut être pareil pour les plastiques, non ? Ou pas ?
Oui, parce que certains colorants vieillissent très très mal, et certains plastiques se fendent. Par exemple, je ne prends plus de polystyrène, des choses comme ça, parce que 2 ans après, on peut le refaire.
Alors justement, puisque vous avez pratiqué plusieurs fois ces assemblages, vous savez ce qui est pérenne et ce qui ne l'est pas ? J'imagine que maintenant, vous voyez un petit peu la résistance des matériaux aux transformations que vous leur faites subir.
Oui.
Là aussi, ça amène une meilleure sélection ou pas ?
Oui, c'est sûr. On ne s'encombre plus avec les mêmes éléments qu'au début. Hein. Mm.
Comment vous avez appris à travailler ces matériaux ? Par vous-même ?
Au départ, je ne suis pas du tout bricoleur, en fait. Hein. Mm. Moi, je me voyais pur peintre. Hein. Mm-hmm. Donc, il a fallu trouver une solution terre à terre à chaque fois.
Hein. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est, une solution terre à terre ? C'est quelqu'un qui vous donne des conseils ? C'est des tutos ? C'est des livres ? C'est quoi ?
Non, c'est il faut que ça tienne sur ça. Mm-hmm. C'est la question, comment tu vas faire tenir ça sur ça ?
Bon.
Tu te débrouilles, tu as une perceuse, tu as juste une perceuse.
Oui.
Tu cherches.
Et comment on résout le problème ? C'est-à-dire, on fait plusieurs essais jusqu'à que ça fonctionne ou...
On s'assied.
On réfléchit d'abord.
On réfléchit.
Toujours.
On s'assied, on laisse mûrir. Mm-hmm. Et puis quand c'est mûr, on se dit, le trou, il doit être là, et on le perce là.
D'accord, c'est pas des essais répétés, pas forcément.
Mais non, parce qu'on tue l'objet, malheureuse.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Donc, l'expérimentation n'est pas forcément la bonne technique. D'abord, réfléchir avant de se lancer dans l'assemblage.
Oui, c'est ça. Oui.
D'accord. Et justement, le fait d'avoir un atelier, est-ce que c'est important ? pour ça.
Non, mais c'est vital.
C'est vital.
Pour moi, c'est vital. Mm. S'il n'y a pas d'atelier, il n'y a plus rien.
D'accord. Et dans votre atelier, il vous faut quoi de façon indispensable ?
Un fauteuil.
Un fauteuil. Vous asseoir, voilà. Mm. Bon, des lieux de stockage, on a compris.
Oui. Mm.
Mais il vous faut aussi pas mal de matériaux accumulés, type colle, peinture, etc., j'imagine.
Ben oui, c'est ce dont on a besoin. Oui. Résine, peinture, pigments de couleur... Visserie monumentale, forêt de toutes sortes.
Que vous avez récolté au fur et à mesure.
Des besoins.
Mmh. D'accord. Là, maintenant, ça représente une sacrée somme de...
À terme, voilà. Enfin, depuis le départ, oui, c'est un investissement, on va dire, colossal. Oui.
D'accord. Et vous avez besoin d'espace aussi pour faire tout ça ou pas ?
Énormément d'espace.
Ouais, ouais. Mmh. C'est pas des activités qu'on peut faire dans un petit recoin.
Non. Mmh. Ben non, c'est pas... C'est rien que pour le stockage déjà. Mmh. Déjà, c'est pas possible de faire ce type de travail si on a juste un petit studio.
Mmh, oui. Mais après, même pour le découpage ou le collage, etc., il y a besoin de beaucoup d'espace ou pas ?
Ça dépend de la place de la pièce, en fait. Ouais. Ça dépend de ses dimensions.
Ouais.
Si là, un petit poisson, tout petit, ça tient sur un bout de bureau. Mais si on fait un taureau, tout l'atelier est occupé. Oui.
Ouais. Travailler dans le bruit, dans la poussière, dans les peintures, les produits chimiques, ça vous gêne pas ?
Non.
Non, parce que vous êtes partie de la peinture. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des odeurs en peinture, il y en a forcément.
Oui,
mais là, ça multiplie en fait les types
vrai,
de bricolage.
C'est de la pollution.
C'est de la pollution.
Donc on met un masque, on met un casque, on met des lunettes.
D'accord.
On se lave les mains tout le temps, mais on est quand même pollué au bout du compte. Hein, en fait.
Mais vous êtes entré à 100% dedans, quoi. C'était pas du tout votre domaine et finalement vous l'êtes complètement approprié sur le plan en tout cas de la technique.
Ben moi, j'ai pas de terre vraiment technique. Hein. Mm. Tout vient du besoin de l'instant. Il faut que ce soit maintenant, il faut que ça tienne, trouve une solution.
Mm-hmm. D'accord. Voilà. Mais forcément, vous, petit à petit, vous accumulez des savoirs techniques.
Voilà, c'est-à-dire que la solution qu'on a trouvée, on peut la réinvestir dans une autre pièce. On peut trouver des solutions, quelquefois, totalement loufoques, absolument invraisemblables. Mais...
Comme quoi, par exemple
Faire une fixation à base de lacets de chaussures, des choses comme ça, des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Ou faire un pliage de tôle particulièrement tordu, qui est justement celui qu'il faut. Ou bien usiner une pièce dans un format avec une forme absolument incongrue, parce qu'il faut que ça passe par là, que ça rentre par là et que ça arrive là.
Et quel sentiment on a quand on a trouvé ça ? Qu'est-ce qu'on éprouve à ce moment-là ?
Rien, on pose la pièce, on perce le trou, on
D'accord.
passe la suite.
On n'est pas content d'avoir trouvé quelque chose.
Non, parce qu'on n'est pas sûr de réussir, après on va quand même se planter si ça se trouve.
D'accord. Bon, à l'issue, quand la pièce est terminée, il y a quand même un sentiment de satisfaction d'avoir réussi à trouver une solution.
Au début, oui, maintenant beaucoup moins. Maintenant, quand elle est finie, je la prends, je la pose et on passe au suivant.
D'accord. Alors, vous nous avez bien expliqué comment vous étiez en recherche de matériaux, comment vous les sélectionnez, mais vous avez aussi beaucoup parlé de cette fameuse préparation mentale, en tout cas de cet examen mental de votre travail créatif. Alors, justement, est-ce que vous partez d'un projet et vous cherchez les matériaux qu'il faut pour réaliser ce projet, ou alors c'est en regardant les matériaux que vous vient un projet, enfin, quand je dis un projet, donc l'idée d'une œuvre artistique, comment vous fonctionnez ?
Tout part de l'objet.
Tout part de l'objet.
J'ai un objet, je pense qu'il cache quelque chose.
D'accord.
Je vais le faire entrer dans l'atelier, et puis il va rentrer dans la montagne d'objets, et un jour il va ressortir. Et là, je vais regarder ce que j'ai autour. Je sais très bien qu'il y a quelque chose dans cet objet, mais est-ce que maintenant j'ai les éléments pour le faire ? Si ce n'est pas le cas, il retourne dans la montagne.
D'accord. Donc vous le prenez, vous avez l'idée que ce sera lui aujourd'hui. Et là, vous le regardez, c'est-à-dire que là, il ne se passe rien. C'est ça que je veux dire sur le plan physique, manuel, il ne se passe rien, tout se passe dans la tête.
Tout se passe dans la tête.
D'accord. Donc, vous avez une représentation mentale en 3D de ce que vous allez faire ? Comment
non,
ça se passe ?
Je ne suis pas du tout un ingénieur.
Alors, dites-nous.
Non, je regarde et j'essaie de voir apparaître une image.
D'accord.
Une image, voilà.
Ouais.
Si c'est un corps de singe... J'essaie de voir ce qui pourrait compléter le singe. Si c'est un perroquet, j'essaie d'imaginer comment des ailes pourraient s'agencer à ce corps de perroquet ou à ce bec de perroquet.
Mm-hmm.
Et je passe en revue mentalement...
ce que vous avez en
ce que
réserve.
J'ai, voilà. Et je sais si je n'ai pas ce que j'ai, ce qu'il faut, je vais ensuite ouvrir les yeux.
D'accord.
Sachant que je suis persuadé qu'un jour, l'objet va venir à moi.
D'accord. Alors justement, vous n'entreprenez pas de le monter tant que vous n'êtes pas sûr dans votre tête d'avoir tous les éléments ?
Dans l'idéal, évidemment, des fois je crois avoir et puis j'ai pas.
Voilà. Donc, et là, vous commencez, ouais.
On monte et puis on démonte, voilà, c'est tout.
D'accord.
On repart à zéro.
Alors, la thématique des animaux est très forte dans votre œuvre. Est-ce que vous avez eu envie de changer ou pourquoi vous vous êtes entrepris dans cette thématique-là ?
Parce que le premier était un petit éléphant. Et dès lors que le premier était un petit éléphant, instinctivement, j'ai cherché dans la même direction.
D'accord.
Le deuxième était un phoque. Voilà.
Et ainsi de suite. Et vous avez envie de faire toutes les espèces ou pas forcément ?
Mon idée, c'est de faire un bestiaire.
C'est de faire un bestiaire.
D'accord. On a toujours quelque chose de grand dans la tête.
Oui, hein. Voilà, c'est ça.
Maintenant, si je fais un champignon, quel intérêt de faire un champignon ? J'ai fait une fois un champignon, mais oui. Si j'en ai pas 50 autres à côté, ça sert à rien.
D'accord. Donc, vous voyez bien, en fait, l'idée de rassembler toutes... comme un zoo,
un musée zoologique.
Voilà.
Un zoo.
Et vous n'avez jamais eu envie d'aller vers d'autres directions, d'autres types de représentations ?
Je viens d'autres directions. J'ai essayé la peinture. Simplement, je me suis trouvé en accord avec moi-même quand j'ai commencé ça. Je me suis dit, là, il y a vraiment une interrogation qui me fascine. Qu'est-ce qui est beau, en fait ? Est-ce que c'est le travailler ? Est-ce que c'est le complexe ? Ou est-ce que c'est l'instant présent ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Et lorsque j'ai posé cette gouttière dont je vous ai parlé tout à l'heure sur ce cache-pot, eh bien l'instant présent était finalement plus intense à mes yeux que toute la recherche longuement élaborée et absolument vaine de la pièce que je travaillais en parallèle. Donc c'est cet instant de transformation où on voit apparaître l'animal dans l'objet, c'est cet instant qui est beau en fait.
D'accord. Et c'est ça que vous recherchez dans votre expérience personnelle d'artiste.
Oui, c'est ça qui m'enrichit.
Voilà, c'est ça qui vous fait.
C'est cette découverte, c'est comme un tour de passe-passe, c'est comme un tour de magie plutôt. Voilà.
Atteindre une forme de simplicité et de beauté en même temps.
Plus c'est simple, mieux c'est.
D'accord. Et je voudrais savoir, est-ce que vous continuez de faire des recherches? En tout cas, des recherches théoriques, c'est-à-dire vous allez chercher, dans les livres d'art, d'autres représentations pour vous nourrir, peut-être pour après travailler dans d'autres directions.
Oui, bien sûr.
Ça vous arrive ?
Je m'intéresse à l'art, je lis sur l'art, je vais voir des expositions, je regarde tout ce que font les artistes animaliers et les autres aussi.
Ça vous inspire ?
Tout ce qui est de l'ordre de la représentation, avant tout.
D'accord.
Je m'intéresse beaucoup moins à l'art abstrait ou aux installations de post-moderne, ces choses-là.
Conceptuel.
Ça m'intéresse aussi en tant que spectateur, hein, mais pas vraiment en tant qu'acteur, en fait.
D'accord. Et ça vous nourrit toutes ces recherches et ces observations d'autres artistes ?
Oui, ça me nourrit, bien sûr. Ça me nourrit aussi dans mon travail, puisque je suis enseignant.
Oui. Quand vous avez une idée en tête, quand vous êtes sur un projet, donc déjà, le temps. Combien de temps vous passez entre le début et la fin de ce projet ? Mettons, vous êtes en train de réfléchir à la construction d'un animal. Et est-ce que vous savez évaluer le temps que vous mettez entre le point de départ, le moment où vous asseyez sur votre table et que vous regardez l'objet point de départ, et la fin de la réalisation ? Est-ce que vous savez combien de temps vous mettez ?
Oui. C'est comme Fernand Reynaud, hein, un certain temps.
Oui. Oh mince, vous ne m'aidez pas là.
Ça, c'est mieux quand ça dure quelques secondes en fait.
Ah oui, d'accord. Vous voulez quelque chose de très rapide ?
Non, je dis que c'est mieux.
Oui.
Ça m'est arrivé, j'ai fait un crabe une fois, j'avais un presse-purée, j'avais deux embauchoirs, j'ai glissé les embauchoirs dans le presse-purée, le crabe était là, ça m'a pris 10 secondes.
D'accord.
C'est une des pièces que je préfère.
D'accord. À cause de la rapidité ?
Parce que vous voyez le machin qui naît, c'est comme un éblouissement.
C'est l'évidence, en fait.
Voilà, c'est l'évidence.
C'est l'évidence.
Après, j'ai fait des pièces très complexes qui ont pris plusieurs mois. Et là, on est plus dans le travail au long cours, quoi.
Ouais.
C'est très bien, il faut poser une plume, après il faut poser l'autre plume, et puis après il faut mettre l'autre plume, et puis voilà.
D'accord.
Et puis à la fin seulement, on voit ce que ça donne.
Et là, est-ce que c'est moins satisfaisant, alors, justement, ou pas ?
Si, c'est bien aussi.
C'est bien aussi ?
Moi, je préfère quand c'est court, personnellement, mais les projets complexes, avec les animaux complexes, ça prend du temps.
Ça prend du temps. Alors, quand vous êtes sur un projet complexe, est-ce que l'idée occupe complètement votre tête ou alors seulement quand vous êtes dans l'atelier ? Par exemple, est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez tout le temps ?
Ah non, mais je réfléchis tout le temps, le jour, la nuit, tout le temps.
Voilà. Donc, finalement, c'est un travail constant de votre esprit par rapport à votre activité.
C'est une activité intrinsèque, on va dire. Voilà. Permanente.
Qui se présente sous quelle forme ? Des rêveries ou alors des images ou...
Non, je regarde.
Ouais.
Je regarde.
D'observation, alors.
Oui, tiens, oh, là, il y a une balayette. La femme de ménage a oublié une balayette. Elle est orange. Ça va me faire le pied de doigt que je cherche depuis des semaines. Il faut que je trouve une balayette d'une autre couleur. Je vais la remplacer. Voilà,
d'accord. Comme ça. Et est-ce que vous arrive de noter ce que vous avez dans la tête ou alors de faire des croquis?
Jamais.
Jamais. Vraiment, tout reste mental.
Mais en fait, si vous faites des croquis, vous partez sur une situation qui est fictive. Votre but, c'est de réaliser quelque chose, un objet qui va exister matériellement. Vous faites un croquis de l'objet. Très bien, c'est joli, mais après, vous avez l'objet, il faut mettre une vis. Votre croquis ne va pas vous dire où mettre la vis.
Vous pourriez avoir peur d'oublier. Ça pourrait être un croquis de mémorisation, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Se dire, tiens, il faut que je note que c'est, il faudra que je fasse comme ça.
Si non, j'oublie, c'est que ce n'est pas bon.
Non. D'accord. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des grosses difficultés avec des pièces, avec des œuvres que vous étiez en train de constituer?
Oui, évidemment, les grosses, surtout les pièces importantes.
Hein. Voilà. Quel est le frein principal? C'est le...
Pas mourir écrasé.
Écrasé. Parce qu'elles sont trop lourdes.
Oui, parce que quelquefois, pour percer, il faut les mettre en hauteur, il faut se glisser en dessous. Et j'ai très peu de matériel, en fait. Donc, on fait des accumulations de chaises pour le tenir. Et puis, un beau jour, tout tombe. Et puis, on est dessous. Puis
on ça bon sent. Bien. Oui, oui. Vous avez demandé à des gens de travailler avec vous, des fois, ou pas?
Non. Oui, j'avais un camarade. C'était ouvrier d'entretien au collège où je travaille, qui venait souder, parce que moi, je suis allergique à la soudure. Il venait souder les pièces que je voulais.
D'accord.
Et il me donnait des conseils parce que lui était très bricoleur.
D'accord. Et ça vous aimez, ces moments de partage avec d'autres artistes?
Avec lui, oui.
Avec lui, ouais. Mais vous avez essayé de collaborer avec d'autres artistes pour voir si ça pouvait aussi être intéressant?
Collaborer, c'est-à-dire faire une œuvre à plusieurs?
Oui, par exemple.
Non, moi, je suis un solitaire.
Vous êtes un solitaire. D'accord. Quand vous commencez, est-ce qu'il y a une partie par laquelle vous aimez commencer ou pas dans ces œuvres que vous constituez? Je ne sais pas ce que vous recherchez.
Commencez par la queue.
La queue, la tête, les pattes, je ne sais pas. Il y a un ordre qui s'impose ou pas forcément?
C'est l'ordre, c'est l'objet qui le dicte, en fait.
C'est l'objet qui le dicte, d'accord. Bah, donc vous pouvez très bien commencer par un bout.
Oui, oui, oui.
Pas forcément l'élément qui sera clé dans la perception de l'animal.
Si, c'est toujours l'élément clé, en fait.
Ah.
C'est l'élément qui me permet de voir l'animal. Hein. Mm-hmm. Par exemple, j'ai récupéré une vieille luge avec un pied en... vous savez, la tige de la luge en spirale. Je sais très bien qu'il y a une queue de singe là-dedans. Donc
d'accord.
Je vais partir de ça. Voilà.
Voilà. Mais est-ce que vous pensez que c'est ce que le spectateur verra lui aussi en gros plan quand il regardera?
Mais s'il ne voit pas la queue de singe dans le truc, moi je me suicide, alors
c'est
ça
que...
sert à rien.
D'accord. À force de pratiquer ces assemblages, est-ce que vous savez par avance le résultat que vous allez obtenir?
Non.
Non?
Non, non. Je l'ai dans l'idée.
Ouais.
J'ai l'impression que ça peut donner quelque chose.
Ouais.
Et bien souvent, je me trompe, en fait.
Est-ce qu'il peut y avoir des surprises?
Ah,
des
oui,
bonnes surprises?
Oui, oui, bien sûr. Parce qu'on voit des formes apparaître qu'on n'avait pas prévues. Oui,
oui, et à l'inverse, des frustrations, des erreurs, des sentiments d'échec?
Au départ, je ressentais le sentiment d'échec. Maintenant, je ne me pose plus la question. Je démonte et j'y pense plus.
D'accord.
Voilà.
Qu'est-ce qui vous fait aller d'un projet à l'autre? C'est-à-dire que pour l'instant, vous ne vous fixez pas de limite en quantité d'œuvres produites, ni quoi que ce soit?
Non, en ce moment, je travaille sur les poissons rouges. Alors, tant que j'aurai des objets pour faire des poissons rouges, je ferai des poissons rouges. Et à un moment donné, je me dirai, il n'y a plus de poissons rouges.
D'accord.
Je ferai autre chose.
Et pourquoi des poissons rouges alors? Juste pour essayer de comprendre, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur les poissons
rouges? Non, la question, c'est pourquoi pas un poisson
rouge?
Pourquoi il y aurait certains animaux plutôt que d'autres?
D'accord. Et est-ce que vous pensez que vous êtes guidé en ça par la façon dont on perçoit les animaux, nous, dans la société?
Ça, c'est une question qui est difficile, parce que moi, j'essaie d'être absolument objectif. C'est-à-dire, j'essaie de me faire une idée de l'animal. Je me dis, là, par exemple, avec ce radiateur et ces roues de tricycle, je pense qu'il y a un bélier. Mais après, le spectateur, lui, autour de ce bélier que moi, je veux objectif, lui, il va tresser... toute autre chose, une toute autre trame. Hein, il va parler de la chaleur du radiateur, la chaleur du beau bélier, des choses qui, moi, me sont jamais venues à l'idée.
Oui.
Mais le spectateur, lui, imagine autre chose.
Mais
il va dans une autre direction.
Vous ne croyez pas qu'en choisissant un radiateur, votre inconscient, il fait quand même une partie de ce travail-là?
L'inconscient.
Oui, peut-être quelque chose qui ne se dit pas, mais que vous percevez, que vous ne formulez pas dans votre tête.
Ben, le but, justement, c'est de formuler les choses inconscientes. C'est sûr qu'au départ, on ne voit pas un radiateur, un bélier, c'est pas évident.
Hein. En même temps, chaleur, bélier, ouais, oui, moi, chaleur, toison, non,
non, c'est pas, non, non.
Ouais, c'est pas ce qui...
Toison, oui, bélier, bon, pourquoi pas. À un moment donné, ça jaillit, mais je ne saurais pas si c'est l'inconscient ou si c'est juste la conscience qui capte quelque chose qui vient d'ailleurs, qui ne viendrait pas de l'inconscient.
D'accord. Et c'est ailleurs, vous avez déjà réfléchi à ce que ça pourrait être, l'inspiration, ce qu'on appelle l'inspiration chez l'artiste? Ou alors ça vous paraît trop éthéré?
Non, non, c'est pas éthéré. L'inspiration, je dis toujours à mes élèves, l'inspiration, ça n'existe pas. Voilà, tu regardes ce que tu fais et tu regardes ce que tu peux faire. Et puis après, à un moment donné, on se laisse entraîner. Et là, on peut dire qu'on est inspiré. Mais l'inspiration qui viendrait avant, je pense pas que ça existe.
Cette dynamique, elle vient en fait en cours de création. C'est ça, en fait.
C'est ça. L'objet m'intéresse, je pense qu'il y a quelque chose, je suis circonspect. Voilà, mon attitude, c'est la circonspection. Et après, là, je pense, oui, c'est possible.
Voilà. Et vous parliez d'évidence, de simplicité. Comment on sait qu'il faut s'arrêter sur une pièce? C'est-à-dire dire ne pas aller trop loin pour ne pas la surcharger ou ne pas aller trop loin dans la représentation de l'animal.
C'est justement la raison pour laquelle j'ai choisi... cette voie plutôt que la peinture, hein, parce que c'est la peinture. Dans la peinture, c'est une question absolument fondamentale, quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Alors que dès lors qu'on fait un assemblage, quand le dernier trou et la dernière vis est posée, on s'arrête.
Oui, mais on pourrait continuer après tout, rajouter d'autres éléments pour être encore plus proche de la réalité de la représentation de l'animal, par exemple.
Pourquoi faire?
Je ne sais pas, c'est toute la question, c'est l'artiste qui va trancher.
Non, en fait, on le fait, on regarde... est-ce que l'animal est là? Est-ce qu'il n'y est pas? Est-ce qu'il est là? Oui, on s'arrête.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous fait dire que l'animal est là? C'est ça ma question alors, en fait.
Qu'est-ce qui fait dire que l'animal est là?
Oui. Quels éléments vont vous permettre de dire, tiens, là, je suis... Ça y est, j'ai pas besoin d'en rajouter pour que ce soit évident pour les autres.
C'est le déclic, en fait. C'est une certitude interne, on va dire. Voilà. C'est vraiment une question de déclic.
Et vous faites attention à cet équilibre, à ne pas franchir cet équilibre.
Surtout ne pas aller trop loin. Ouais. Ne pas mâcher le travail du spectateur.
D'accord. Ça vous arrivait de dire, ah ben là, je suis allé trop loin, j'en ai trop fait et je casse tout?
Mais oui, bien sûr. Ça arrive tout le temps.
Ouais. Et vous le savez comment? Après coup, quand vous avez terminé?
Imaginez, vous voulez faire un canard colvert. Le canard colvert, c'est très compliqué, ça a des plumes partout, à la queue, ça a des petites plumes qui font des petits tortillons, ça a des couleurs, ça a des reflets. Si vous voulez dire tout ça, arrêtez. Arrêtez tout de suite, parce que vous n'y arriverez pas. Donc vous allez sélectionner un certain nombre de données, vous allez essayer de trouver les données suffisantes, les seules données suffisantes.
D'accord.
Celles qui suffisent pour que le spectateur et moi-même disent « c'est un colvert ».
D'accord. Vous travaillez sur une représentation mentale, en fait, schématisée de l'animal, mais...
Oui, schématisée. Mais quand ça marche, c'est assez rigolo. Moi, j'ai fait un âne avec un meuble absolument cubique, et le spectateur dit « qu'est-ce qu'il est ressemblant, votre âne ?» J'ai jamais vu d'âne cubique.
Et pourtant, ça fonctionne.
Et pourtant, ça fonctionne.
Donc, ça veut dire qu'il y a un mélange de plein de choses aussi derrière les objets que vous utilisez. Il y a peut-être aussi la mémoire de l'objet qui rentre en jeu.
Je ne sais pas. Je pense surtout que c'est l'imaginaire du spectateur, ce qu'il connaît de l'animal. Généralement, le spectateur connaît très peu de choses de l'animal. Il n'en connaît que des images qu'il a vues dans des contes, dans des dessins animés. Si vous montrez un pélican à quelqu'un, il va être très embarrassé. Si vous mettez une mouette, il va dire que c'est un pélican. Voilà, donc le pélican, il ne sait pas ce que c'est.
Il ne sait pas, Et donc, vous n'allez pas chercher dans les représentations, dans les livres, des représentations exactes des animaux?
Je les regarde tout le temps.
Vous les regardez?
Et je regarde les animaux tout le temps.
D'accord. Donc, vous avez besoin de cette observation du réel, même si ce n'est pas votre but... après, de le reproduire exactement.
Moi, j'ai toujours regardé les animaux. Aussi loin que je me souvienne, j'ai observé les animaux pour rendre compte de leur mouvement, pour rendre compte de leur démarche, de leur posture. C'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'anatomie, en fait. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre, de l'élan, vous voyez. Et dès lors, oui, l'observation de l'animal, mais pas d'un point de vue anatomique.
D'accord. Et c'est ça qui va vous servir après pour vous dire, tiens, ça y est, je l'ai. C'est celui-là.
C'est ça. L'envol du pigeon, c'est très particulier. C'est pas une question de nombre de plumes. C'est une question de silhouette d'ensemble, d'élancement dans la silhouette et quelquefois, il y a des objets qui peuvent évoquer l'envol d'un pigeon.
Et vous êtes posé la question de savoir si finalement les créateurs de ces objets, qui n'ont aucun rapport avec les animaux au départ, ont peut-être imité une partie des animaux ou pas.
Oui, ça c'est un truc que j'ai lu dans un bouquin surréaliste, comment s'appelait l'auteur, Kaiwa, je crois, qui disait que l'inventeur d'objets a dans la tête toutes sortes de représentations qui permettraient finalement de configurer la forme de l'objet, mais c'est possible.
Oui, oui, je pense. Oui, pourquoi oui. pas. Alors, on va maintenant évoquer un petit peu votre rapport à l'environnement et au public. On va commencer par le public. Donc, l'atelier, c'est plutôt un lieu solitaire. Mais est-ce qu'il vous arrive de montrer vos œuvres au public? Et quel est l'objectif de cette confrontation?
Les objets sont destinés à être montrés au public. Mmh. Ils ne sont pas destinés à se tenir dans des réserves. Donc, dès que c'est possible, je montre les œuvres au public.
D'accord. C'est facile pour vous ou pas de faire des expositions, d'exposer vos objets?
Facile d'un point de vue pratique.
Voilà, pratique. C'est-à-dire, est-ce que, voilà, il est facile de trouver des lieux d'exposition, de
non,
trouver
c'est
des
facile.
Moments
voilà. Il faut... C'est l'amitié qui joue souvent, en fait. Mmh. Angélique Jung m'aide beaucoup, mmh. par exemple, qui est une oui. sculptrice. Elle m'aide beaucoup, elle me fait participer à ses expositions. D'autres personnes m'invitent mmh. à d'autres expositions. Mmh. C'est vrai que je ne suis pas naturellement porté à faire ma promotion.
D'accord. Est-ce que c'est compliqué, la communication sur ce qu'on fait, justement? Mettre oui. des mots sur ce qu'on fait, est-ce que c'est compliqué?
C'est compliqué, oui. C'est compliqué d'être compris et c'est compliqué de sortir de son monde intérieur mm-hmm. pour faire comprendre sa démarche intérieure à quelqu'un qui ne nous a jamais rencontrés, n'a jamais mm-hmm. vu nos œuvres. Oui, c'est compliqué.
Est-ce qu'on se sent sali ou trompé ou trahi dans ces moments-là ou pas?
Non.
Non, c'est pas dans ce sens-là que c'est compliqué.
Il faut accepter que les gens n'aiment pas ce qu'on mm-hmm. fait. Je veux dire, ça pose pas de problème. Mm-hmm. Les gens adhèrent ou pas, les gens sont libres.
Hein. Oui, ou qu'ils ne comprennent pas.
Ou qu'ils ne comprennent
c'est
pas.
C'est encore autre chose.
Ce qu'on fait, c'est on montre, c'est une proposition. Mm-hmm. Après, des fois, on discute avec les gens. Ils sont contents, ils sont mécontents. Ils adhèrent pas. Mm-hmm. Mais pour moi, ça me pose pas de problème.
D'accord. Justement, dans ces échanges avec le public, il vous est arrivé de retenir des choses? De vous dire, tiens, cette remarque, elle est juste, je pourrais changer ça ou...
Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais je fais plus attention aux gestes du public qu'à ce qu'ils disent, en fait.
Aux gestes?
Oui, oui, c'est-à-dire à la manière dont ils vont tourner autour de la pièce, à la manière dont ils vont essayer de la caresser aux objets. Par exemple, il y a un qui va me dire, il y a un trou, là. Il y a un trou dans le sanglier, là. Ça m'a travaillé. Effectivement, il y avait un trou dans le sanglier. Oui. Je me dis, est-ce qu'il faut accepter le sanglier avec le trou ou pas?
D'accord. Vous êtes arrivé de transformer des œuvres d'art après ces remarques ou pas?
Il m'est arrivé d'avoir envie de le faire et de me retenir de le faire. Si je le fais, d'abord, je m'assierai longtemps dans le fauteuil.
D'accord. Et le lieu où vous exposez, c'est important pour vous ou pas?
Mais ça, c'est la joie de ce travail, en fait, d'être dans un beau lieu.
Mmh. Alors, qu'est-ce que vous appelez un beau lieu? Parce que ça peut être...
Un lieu chargé d'histoire, par exemple.
Voilà, une bâtisse.
Une bâtisse, oui. Ouais.
Un musée.
Un musée, oui, ça, c'est vraiment... Le gain financier de la pratique artistique, il est dérisoire, il est minime, presque rien par rapport à ce que ça coûte. Donc il faut bien qu'on ait des satisfactions.
D'accord.
La satisfaction, c'est d'être dans un beau lieu,
ouais.
entouré de belles choses.
Ouais. Et en extérieur? Puisque ce sont des animaux, après tout. Est-ce qu'ils sont voués à aller à l'extérieur?
Pour moi, non, parce que les fixations n'y résistent pas, les matériaux n'y résistent pas longtemps. Mm-hmm. J'ai déjà placé des objets en extérieur à la fin de l'été.
Oui.
Monsieur Perroquet, il était mort.
D'accord.
Plastique fendu, on peut le refaire.
D'accord. Est-ce que grâce à ces expositions, il vous est arrivé de faire des œuvres de commande? Est-ce qu'on vous a commandé des choses à la suite d'expositions?
Je n'ai jamais travaillé sur commande.
D'accord. C'est quelque chose qui vous déplaît?
Ce qui me plaît, moi, c'est de faire ce que j'ai envie de faire.
D'accord. Donc, pas de commande, pas de direction imposée.
Non. Je ne gagne pas ma vie avec la sculpture. D'accord. Je le fais naturellement, donc je veux faire ce qui me plaît et strictement ce qui me plaît.
D'accord. Alors, vous êtes installé dans la région des Ardennes. Est-ce que vous pensez que ça a une influence sur votre travail d'artiste? Le fait de vivre ici, à Rethel, dans ce lieu-là, est-ce que vous pensez que ça a pu influencer...
Ce qui a influencé mon travail d'artiste, c'est pas tellement le lieu géographique, c'est plutôt le fait de vivre dans un collège entouré d'élèves, d'être en permanence au contact d'enfants et de devoir faire cours à des enfants. Oui, ça a profondément influencé ma pratique.
Dans quel sens?
C'est-à-dire que je suis persuadé que l'art qui, pour moi, a de la valeur, doit s'adresser à tout le monde, y compris aux enfants.
D'accord. Donc, c'est ce que vous... finalement, ça a influencé ce que vous avez réalisé?
Oui. Mais même du point de vue de la pratique, quand vous faites bricoler des enfants, ils ont des idées absolument fabuleuses.
Hein. D'accord.
Je pisse en vergogne.
Oui, ça vous nourrit comme vous les nourrissez, finalement. C'est, voilà, ben, ça c'est va dans les deux sens.
C'est ça.
Et est-ce que la récente crise que nous avons subie, et qui n'est pas terminée au passage, est-ce que ça a une influence sur vous, la crise sanitaire? Ça a peut-être nourri des réflexions, vous qui finalement travaillez sur des matériaux recyclés, sur les animaux, j'imagine que ça retombe d'une façon particulière.
Mais surtout, ce qui a retenti, c'est le fait que les expos qu'on avait prévus tombent à l'eau.
Déjà.
Que tout, dès lors que le travail qu'on avait pu effectuer en fonction d'un lieu, voilà, n'existe plus. Enfin, n'a plus de sens, quoi.
D'accord. Voilà. Et ça vous a amené à être déprimé, triste, ou alors...
Oui, j'ai eu un coup de mou, hein. Je ne pense pas avoir être le seul. C'est-à-dire quand on travaille sans avoir le projet de le montrer, finalement, quand on sait que ça va rester dans la réserve... On a moins envie de le faire, c'est clair.
Ouais. Mais par rapport aussi à l'autre aspect de la crise, le fait que ce soit une crise qui est quand même liée à l'environnement et qui pose la question quand même de l'existence des animaux, de la disparition, de l'extinction de certaines espèces animales. Vous n'avez pas l'impression d'être dans un engagement là, par rapport à ces thèmes-là ou pas ?
Je suis de manière naturelle dans un engagement en faveur des animaux. Mais le travail... que je fais artistique n'est pas un travail militant.
D'accord.
Ce n'est pas un travail de protection de la nature. C'est un travail de questionnement.
D'accord. Mais qui appelle quand même vers des thèmes environnementaux.
C'est-à-dire que oui, ça reprend des thèmes environnementaux, ça pose la question de la place de l'animal, et du rapport qu'entretient le spectateur avec l'animal, mais ça ne dit pas qu'il y a une bonne façon d'avoir un rapport avec l'animal. Ça pose la question.
Oui. Tout en utilisant des objets qui sont issus d'une société industrielle et qui sont en surplus.
J'utilise les objets parce qu'ils sont là.
Ouais.
Voilà. C'est la raison principale pour laquelle j'utilise des objets, c'est parce que vous vous baissez, vous avez un objet. C'est un support perpétuel de réflexion. Je ne fais pas une œuvre de militantisme en faveur du recyclage.
D'accord.
Simplement, je prends les objets parce qu'ils sont là.
On va arriver à la dernière partie. C'est vous qui allez parler de l'œuvre d'art. D'accord, mais d'abord, je vous pose juste une question sur l'ensemble de tout ce que vous avez pu créer. Alors, on va maintenant aborder la dernière partie de cette interview sur tout ce qu'on appelle la transmission sur Créodyssée. Quel regard vous portez aujourd'hui sur tout ce que vous avez créé, notamment depuis cette période charnière où vous vous êtes trouvé davantage? Est-ce que c'est un regard de satisfaction? Est-ce que vous avez un regard, d'ailleurs, sur tout ça?
En fait, pour moi, le regard que je porte sur ce que j'ai fait, c'est plutôt un regard détaché. Voilà. C'est un regard... J'essaye d'éliminer tout pathos, si vous voulez. Voilà. J'essaye d'être toujours neutre, objectif. Donc, j'ai fait des œuvres que je garde.
Ouais.
Je me suis investi énormément dans beaucoup d'œuvres. Et ça ne va pas m'empêcher, 2 ans plus tard, de les détruire.
D'accord.
De manière tout à fait sereine.
D'accord. Voilà. C'est pas voué à rester après vous, c'est ça? Vous
certaines,
cherchez pas...
Si. Certaines resteront peut-être.
Ouais.
Peut-être que certains les conserveront.
Mm-hmm.
Mais je ne me pose pas la question de leur conservation.
D'accord. Vous sentez libre d'en éliminer et d'en recréer autant que vous voulez.
C'est ça.
Est-ce que si jamais vous rencontriez une personne qui veut faire exactement la même chose que vous, vous lui donneriez quel conseil?
Ben, je lui dirais, viens travailler avec moi.
Oui, vous vous sentez dans la transmission alors?
Ben, moi, ça ne me dérangerait pas qu'on soit plusieurs sculpteurs à se lancer dans cette aventure.
D'accord.
Le bestiaire serait plus grand.
Ouais.
Et on se mettrait d'accord, on discuterait, et peut-être qu'on arriverait à faire quelque chose de bien.
Ça serait chouette. Bon, alors, je vous ai aussi demandé, comme à chaque invité, de parler d'une œuvre d'art qui vous plaît, que vous aimeriez partager avec les auditeurs, une œuvre d'art ou un artiste. Alors, je vais vous laisser présenter.
Bon, ben, si vous me parlez d'une œuvre d'art, je vais vous parler du retable d'Isenheim.
Colmar.
De Colmar,
voilà.
C'est ça, oui. C'est une peinture que j'ai rencontrée quand j'avais 20 ans et qui est véritablement à l'origine de mon choix de me lancer dans une recherche artistique. C'est une rencontre très intense. J'ai vu depuis des dizaines de fois. Je l'ai analysé sous toutes les coutures. J'ai lu tout ce que j'ai pu lire sur cette œuvre. Donc c'est une œuvre, c'est un très très grand tableau en forme de livre. On appelle ça un retable, c'est-à-dire un tableau qui se tenait derrière l'autel dans une église. C'était un tableau donc à vocation liturgique, qui est resté secret en fait, qui a été... peint par Matthias Grünewald, c'est pas son véritable nom, hein. Son véritable nom est resté secret lui aussi, on le connaît que depuis très peu de temps, son vrai nom c'est Matthias Gotthard Nitthardt, et c'était un artiste dont on sait très peu de choses, dont il reste très peu d'œuvres, et cette œuvre a été oubliée dans ce couvent d'Issenheim et redécouverte à la Révolution française. C'est un chef-d'œuvre absolu de la peinture et de la sculpture, et qui évoque... le corps du Christ, en fait, le corps du Christ crucifié, et qui avait pour vocation de soigner par l'image. C'est pour cela qu'il me sidère, parce que c'était un tableau curatif, qui soignait par l'image une maladie terrible qui régnait à l'époque, qui était l'ergotisme, qui était une maladie due à l'infestation du pain par un parasite du seigle. Et cette maladie créait des situations d'hystérie, transformait le corps des malades qui tombaient littéralement en morceaux, et ces malades se réunissaient, étaient ensuite amenés au couvent d'Issenheim pour y être soignés en leur donnant de la nourriture saine, et en les conduisant à certains moments de l'année devant le tableau de Matthias Grünewald, pour se confronter à l'image du Christ.
Ce serait le pouvoir du tableau, en fait.
C'est ça, ouais, c'est le pouvoir de l'œuvre.
Le pouvoir de l'œuvre sur l'être humain. Bah, c'est super intéressant. Merci beaucoup de nous faire redécouvrir cette œuvre-là. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant notre invité et son parcours en sous-texte de notre podcast, ainsi que les références concernant ses activités. Donc, merci beaucoup, Antoine Veid, d'avoir participé
merci
à cette interview. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler. Vous pouvez également nous écrire au mail du podcast creodyssee@gmail.com pour nous faire part de vos remarques et de vos suggestions. Cet épisode a été réalisé par Eric Blanc, ainsi que la musique est animée par moi-même. Et en attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous et restez curieux.